Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et place à la musique dans Le Goût d'entreprendre. Nous recevons un des fondateurs d'Écho d'Artistes à Fronton, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de guitares d'exception. De grands noms de la musique, vous allez l'entendre, leur font confiance, leur voix semble toute tracée. Ils viennent de lancer un centre de formation. Bonjour Benjamin D'Olivera.
Bonjour.
Bonjour Gwenolé Morvan.
Bonjour.
Vous venez tous les deux de Fronton, d'Écho d'Artistes.
C'est ça.
Vous allez nous expliquer ce que vous faites précisément. Vous êtes des luthiers.
C'est ça.
Les luthiers de Fronton.
Les luthiers de Fronton, c'est comme ça qu'on nous appelle, oui, effectivement. Et on est un atelier qui fabrique spécialisé dans la guitare, donc tout type de guitare.
Tout type de guitare, on va y revenir. Alors, quand on parle luthier, on pense souvent à violon.
Oui, après, ça reste un des fondements, on va dire, de la lutherie aussi moderne. Donc, c'est pour ça qu'on retient surtout le violon, parce que c'est vraiment cet instrument-là qui a fait passer la lutherie dans une phase différente. Mais après, qui s'est décliné dans tous les instruments guitare qui sont arrivés par la suite. Donc, nous, on venait des luthiers guitare.
Instrument à cordes, au sens large.
Instrument à cordes, mais en luthier, on dit aussi pour les facteurs d'accordéon, ça reste des luthiers, facteurs de piano également. Mais c'est vrai que nous, c'est guitare et en général, on parle surtout de violon, effectivement.
Alors, vous êtes des artistes, des artisans?
Les deux, on est vraiment à cheval entre les deux. Donc, artisan, oui, forcément, pour le métier, pour le côté manuel, et artiste pour garder tout la patte, on va dire, artistique, ouais, au niveau du design, etc. On est obligé de se lâcher un peu. Donc, il faut garder le côté artiste.
Et du 100% made in France.
C'est ça. Au maximum, on le fait. Et c'est vrai qu'on avait développé un modèle récemment de guitare swing manouche, qui est une guitare purement française, et même les mécaniques ont été réalisées en partenariat avec une joaillière, Isabelle Guérec, qui est du côté de la frontière franco-suisse et qui a réalisé en fait toutes les pièces métalliques de cette guitare pour faire un instrument 100% made in France.
Alors on va en reparler dans quelques instants, on parlait de guitare d'exception, en fait c'est des vrais petits bijoux hein, ce que vous faites.
C'est ça, on essaye de faire ça, après on a aussi une gamme on va dire plus abordable pour des gens qui apprécient le son, mais on a aussi des gammes d'excellence, oui.
Alors Benjamin, vous avez fondé donc, au départ ce n'était pas une école, hein, Écho d'Artistes, donc un atelier, il y a quelques années, c'était en 2015.
C'est ça, ça fait même un petit peu avant, ça fait 5 ans qu'on est installé, 3 ans cet été qu'on va être ouvert en tant qu'Écho d'Artistes.
Ouais.
Donc le temps d'installer, ça prend un peu de temps, le temps de remettre un peu les installations en retour de l'école que j'ai fait au Québec, c'était repartir un peu de zéro en tout cas, de se créer son propre espace de travail. Et ensuite, voilà, en alternant un petit peu entre les travails de réparateur dans des magasins toulousains, on a monté l'atelier en parallèle et depuis 3 ans à temps plein chez Écho d'Artistes.
Alors vous dites « on » parce que vous êtes 3 en fait dans l'aventure.
C'est ça. Donc Alexandre Azola et Childéric Aubert qui ont participé à la création et qui sont voilà, mes collègues et associés d'aujourd'hui.
Alors au départ, vous n'étiez pas, j'allais dire, chef d'entreprise?
Non, pas du tout.
Juste passionné?
Là, oui, un peu la fibre aussi, j'avais toujours eu le goût d'entreprendre, mais passionné, oui, par ce métier. Et c'est sûr qu'après, dans ce genre de métier d'artisanat, il faut prendre tout un peu en main, donc que ce soit... pas que la fabrication, mais aussi voilà, l'administratif,
la gestion,
la communication, etc.
Tout à fait. Donc en fait, c'est l'histoire d'une passion. C'est une reconversion. Qu'est-ce que vous faisiez au départ, Benjamin?
Non, j'ai fait un parcours en sciences, mais guidé très jeune. En fait, je ne suis pas issu d'une famille d'artistes, mais mes parents, enfin mon père et ma tante surtout, m'ont, dès le plus jeune âge, donné le goût à la création. Je me souviens des moments où je n'étais pas forcément à l'école, où j'étais en repos. Le temps que j'avais à passer, c'était de la peinture, de la sculpture, des choses comme ça, où mon père me guidait à faire ce genre de métier. Après, j'ai suivi un parcours scolaire, on va dire, assez classique. Et après, directement, la fibre un peu m'est revenue et je me suis dit, à quoi bon? C'est ça qui me donne l'envie de travailler dans ce métier.
Ouais,
et
ouais.
Je jouais un peu de guitare et pour moi, la lutherie entre la science et l'artistique, c'était une évidence. Donc, j'ai fait cette école de Québec pendant 3 ans.
Alors, justement, comment est-on formé à ce métier de luthier?
Il y a plusieurs,
en France, déjà.
Il y a plusieurs parcours. En France, il y a diverses structures qui existent au Mans, aussi dans l'Hérault. Donc, nous, on essaye de montrer une structure par rapport à notre expérience. On essaye d'apporter notre vision. C'est vrai qu'on est assez jeune, finalement, dans le métier, qui est à la base un métier qui n'est pas forcément toujours évident, enfin de ce qu'on dit, mais finalement pour nous ça s'est plutôt bien passé. malgré en faisant des instruments un peu modernes. Au départ, on nous conseillait pas, c'était un peu difficile, etc. Mais on s'est entêté, en fait. C'est ça qui nous donnait vraiment le goût de venir, de travailler. Au début, on travaillait un peu dans le vent parce que toujours dans l'espoir que ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, on s'est entêté et ça a bien fonctionné. Les rencontres ont fait que aussi, et parce que les produits étaient à la hauteur. Et finalement, au bout de 3 ans, on s'est dit, tout ce qu'on a finalement accumulé, pourquoi pas le partager finalement, d'essayer de l'enseigner aussi et de le mettre à profit d'autres personnes.
Oui, parce qu'on pourrait vous dire, mais luthier, comment ça, il n'y a pas de débouché ?
C'est ce qu'on va dire en général. C'est ce qu'on va dire en général. Non, nous, ce qu'on dit, c'est pas ça. C'est un métier de passion. Donc, si on est passionné, qu'on met la force du cœur, l'envie dedans, comme tout métier finalement, on peut en faire quelque chose aussi de magnifique. Après, c'est sûr que si c'est un métier où on va à reculons, ça va se ressentir tout de suite. Une voie toute tracée.
Enfin, c'est clair.
Ouais, c'est à nous de la créer, mais il faut y aller.
Alors, on va reparler justement de ce centre de formation. Vous êtes venu accompagné par un apprenti, quelqu'un qui va devenir luthier dans quelques mois, qui aura terminé sa formation. Guenolé Morvan, vous avez quel âge, Guenolé ?
J'ai 23 ans.
23 ans, donc vous vous destinez au métier de luthier, mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ?
C'est vrai que pour moi, c'est un peu pareil, un parcours très artistique, guidé dans une famille qui tournait autour de la musique, une famille de musiciens. Ouais. Et très tôt, j'ai joué de la musique et j'ai découvert finalement le côté manuel assez tard, à travers de stages en ébénisterie, en fait. Mm-hmm. Deux stages qui m'ont vraiment donné le goût du travail du bois, qui était vraiment un matériau qui exaltait tous mes sens, le toucher, les odeurs, voilà. Donc c'est ça qui m'a donné le goût du travail du bois, et de par mon amour de la guitare, ça, c'est un peu une
évidence.
Vous avez
marié les deux, ouais.
Exactement. Ouais, ouais. De me diriger vers la lutherie. Et du coup, j'ai découvert Echo d'Artiste l'été dernier, par leur site internet, en fait, tout simplement. Et voilà, on a échangé un peu et je suis venu me former chez eux à partir de l'été dernier.
Alors, qu'est-ce que vous apprenez au quotidien ? Il y a des cours, comment ça fonctionne, une école, c'est votre centre de formation ?
On est principalement amené à faire du travail concret, très concret. Mm-hmm. Vraiment toutes les phases de fabrication d'une guitare, également toutes les règles de sécurité de l'utilisation des machines, des techniques aussi. On apprend à communiquer autour de ce qu'on produit. Voilà, l'identité visuelle, la mise en valeur,
marketing,
finalement,
en fait.
Exactement.
Ouais, d'accord. Et vous voyez comment les années qui viennent, votre avenir ? Vous avez déjà une idée ?
Pour le moment, je me sens très bien chez Echo d'Artiste, donc j'espère.
Nous, on aimerait bien le garder.
Ouais. Ah bah voilà, c'est fait. est-ce qu'on pourrait parler de cette fabrication, peut-être, ce que vous faites concrètement ?
Oui.
Alors, vous fabriquez ?
C'est ça.
Vous vendez ? Des grands noms de la musique vous ont déjà fait confiance ?
C'est ça.
Comment vous vous êtes fait connaître ?
C'était un peu par hasard, donc des fois on dit qu'il n'y a pas vraiment de hasard, mais lors d'une exposition, c'est comme ça qu'on met en avant un peu ses produits. Ouais. C'était de participer à des salons. Donc on avait participé au salon de Fontainebleau, le festival Django Reinhardt. On avait, dès la première année, on est aussi assez connu pour ça, on avait ramené un beau stand avec une planche en bois massive avec une belle guitare posée dessus qui dénotait un peu des stands. Voilà, c'était pour mettre un petit coup parce que c'était notre premier grand salon. Et du coup, Angelo De Bar était passé devant le stand et il avait fait 3-4 pas en arrière. Il avait regardé la guitare, il l'avait pointé du doigt.
Angelo De Bar,
c'est l'artiste. Ben, c'est pas un descendant direct de Django Reinhardt, mais en tout cas, au niveau du style et de la patte, c'est en tout cas à l'heure actuelle un des virtuoses en tout cas de cette musique. Et voilà, en gros, il était passé devant notre stand et surpris, il a fait 3 pas en arrière, il est revenu, il a pointé la guitare du doigt, il nous a fait un pouce comme ça.
Ouais.
Donc, nous, assez impressionnés, encore des bleus, on va dire. Donc super enthousiaste. Et quelques mois après, on refait un salon donc à Mazères, en Ariège, qui est un salon autour du jazz manouche. Et Angelo De Bar était en tête d'affiche de ce salon. Et très amicalement, il vient faire le tour du stand, des stands de luthiers. Il s'arrête chez nous, il avait déjà vu la guitare, il la prend en main, il la joue et il me dit je repars avec et voilà.
Ah oui.
Et après ainsi de suite, donc on a rencontré aussi grâce à lui aussi Thomas Dutronc, il faisait un spectacle ensemble qui est issu du spectacle Manoir de mes rêves, qui est un beau spectacle autour de la musique tzigane, donc et ça nous a permis de rencontrer Thomas Dutronc. Donc pareil, un peu au culot, on avait ramené plusieurs instruments qu'on avait laissés dans les loges, il est allé les essayer un peu discrètement et voilà, en fait, il est tombé aussi amoureux d'une guitare folk qu'on avait ramenée. Et pareil, même chose, je la garde, enfin, je la veux, et voilà.
Mais c'est formidable pour vous, ça.
Oui, oui, bah c'était un peu ce moment aussi où on était un peu à cheval, justement, comme je vous disais tout à l'heure, entêté dans ce qu'on voulait faire et sûr, du concept. Mais c'est vrai que c'est des instruments modernes, donc parfois, il faut remettre un peu aussi les choses en contexte dans la tête des gens, qu'on a l'habitude d'un visuel. Il y a ça aussi qui fait beaucoup, en tout cas, dans le produit. Et nous, on déroge un peu à certaines règles. Donc c'est vrai que visuellement, ça dérange. Ça crée en tout cas des questionnements. Donc après, quand on a l'instrument sur nous, qu'on le gratte, en général, les gens sont conquis.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que ces personnes-là, en tout cas, nous ont vraiment aidés à ce moment-là, en tout cas, à faire comprendre en tout cas à tout le monde que oui, c'était des guitares aussi destinées aux musiciens et qu'elles avaient une réelle viabilité en tout cas acoustique et sonore.
Une réelle personnalité aussi.
C'est ça.
Alors ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il faut oser, il faut de l'audace quand on entreprend?
Je pense ça forcément un petit peu et moi je marche aussi beaucoup, c'est ça, beaucoup au cœur, à l'envie. Donc si, quand c'est des métiers de passion comme je disais, donc si, c'est vrai que si on le fait un peu à reculons ou à contresens dans ce qu'on veut faire, on ne sera pas à 100% dans la création, et dans la création il faut arriver à se lâcher. Et au début, je me lâchais peut-être un peu trop. Et après, on est un peu à l'écoute aussi des musiciens, donc des exigences qu'ils ont. Donc, on adapte au niveau ergonomie. On est à l'écoute aussi des gens qui sont des potentiels clients. Et donc, on crée un échange, en fait, et un mix entre les deux. Donc, on essaie toujours de garder notre patte personnelle, mais aussi que le produit puisse convenir. Voilà, et c'est comme ça qu'on a adapté aussi et que nos produits sont ce qu'ils sont aussi aujourd'hui.
Et c'est ce que vous transmettez aussi auprès de vos élèves,
c'est
de
ça,
vos étudiants?
C'est ça, nous on transmet en tout cas notre base, notre savoir sur notre connaissance en tout cas acoustique, ce qu'on a appris, ce qu'on connaît du métier, et sur ce quoi on axe beaucoup, c'est que les gens fassent ce qu'ils ont envie. Je sais que Guenolé préfère aussi les incrustations, etc. Donc moi je suis à 100% pour qu'ils l'explorent en fait. C'est quelque chose que j'apprécie visuellement, mais auquel je ne passe pas forcément de plaisir à le faire, ou quelque chose d'assez simple. Mais lui, voilà, c'est son côté, donc vas-y, fonce. C'est pareil, il faut que ce soit le plaisir qui guide la création.
Quand vous avez créé votre centre de formation, ça a été des démarches administratives, des accréditations?
C'est ça, que tout récemment, on le fait depuis quasiment le début, c'est un atelier assez grand, ça a toujours été dans le but d'avoir un espace ouvert, un lieu d'échange avant tout. C'est vrai que c'est assez emprunté aussi du fonctionnement du Québec, où il y a beaucoup d'ateliers collaboratifs, où les gens échangent de divers métiers, ou dans le même métier, mais beaucoup d'artistes et artisans différents. Et donc ça crée une source d'échange, donc une plateforme d'échange, et c'est toujours ce qu'on a voulu faire. Donc on s'est ouvert très vite, on a pris aussi des gens justement en stage en entreprise de 4 semaines où ils venaient chez nous soit nous aider ou fabriquer un instrument, pareil, qu'ils avaient envie, qu'ils passent 4 semaines et qu'ils repartent contents et qu'ils explorent, qu'ils avaient envie. On les contenait pas juste à passer le balai ou à changer les cordes, c'était vraiment qu'ils viennent s'amuser, qu'ils viennent prendre le goût au métier. Et voilà, on a évolué, on a commencé aussi à faire des stages pour des particuliers, donc des sessions spécifiques où les particuliers venaient se fabriquer un peu l'instrument de leur rêve. Donc souvent des gens issus aussi de métiers assez manuels, mais ça peut être aussi bien dans l'électronique, la menuiserie, le métal. Donc c'est toujours un rêve pour les gens de se fabriquer son propre instrument, même si on est musicien.
Bien sûr, bien sûr.
À un moment, on en a envie. Et ensuite, on a commencé à recevoir finalement des luthiers en devenir, et à qui on a donné le goût. Certains sont devenus professionnels. L'année dernière, au Salon de Toulouse, aux Internationales de la Guitare, on avait un luthier, John Mélis, qui était vraiment juste à côté de nous. Et aussi la fierté d'avoir, en tout cas, donné le goût. Ouais, le talent, c'est lui qui l'avait. Nous, on a juste
donné le petit coup de
poussé, lui le rassurer en disant, il faut y aller.
Et ça vous a donné envie de créer ce centre de formation?
Oui, on s'est dit qu'on avait la capacité, en tout cas, de créer des beaux instruments, des très bons instruments, et qu'on avait aussi sûrement une fibre aussi pour la transmission qui est pas forcément innée. Et en tout cas, moi, je pense l'avoir et je la développe encore, mais c'est un réel plaisir de le faire. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas officialiser ça et faire une belle structure.
On va en reparler dans un instant. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et on met le goût d'entreprendre en musique aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc Fontaine.
Bonjour Doris.
Merci de nous rejoindre pour l'émission. Et nous sommes en compagnie des luthiers de Fronton. Ce sont des artistes et des artisans, un peu les deux. Première question à nos invités, Jean-Marc.
Bonjour Benjamin.
Bonjour
Guenolé.
Bonjour.
Alors, vous avez développé une académie pour, je vous cite, former une nouvelle génération d'artisans sonores qui changent la donne et travaillent main dans la main avec les artistes. L'artisan luthier représente une force vive face à l'industrie. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que signifie « change la donne » ?
Ben, je change la donne en quelque sorte, comment dire. C'est vrai que bon, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Bon, enfin, ça a été ce combat-là pendant pas mal d'années contre l'industrie, qui aussi a ramené vraiment une qualité en niveau production et au niveau qualité de finition, qui a dépassé aussi beaucoup de choses que les gens savaient faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était assez difficile pour les artisans de se mettre à la page. Mais depuis quelques années, là, les artisans ont complètement rehaussé le niveau. En plus de fournir et la qualité que peut produire l'industrie, ils peuvent aussi fournir un service vraiment personnalisé et à l'écoute des personnes. Donc c'est vrai que c'est cette génération-là qui peut changer la donne en tout cas et changer un peu l'image en tout cas et de ce que les gens peuvent attendre d'un métier comme la lutherie.
Jean-Marc.
Nous parlions tout à l'heure de artistes, artisans, face à une industrie chinoise en particulier, vous voyez plutôt l'instrument comme un dialogue entre l'artisan, une alchimie entre l'artisan et l'artiste.
C'est ça.
C'est ça qui fait votre spécificité.
C'est
aussi.
Ça. C'est ça qui fait la spécificité de Echo d'Artiste et d'autres artisans, enfin de tous les artisans, je pense, en général. Mais c'est vrai que nous, on a tissé très vite le lien avec des artistes. Moi, je suis musicien, je dis que je gratouille, mais je n'ai pas, la possibilité de pousser les guitares dans mes retranchements. Donc, j'ai dû aller au contact très vite des musiciens et c'est avec eux que j'ai développé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est être toujours au contact de ces gens-là qui sont vraiment qui ont l'œil et qui savent
c'est
ce que
référence.
Voilà, c'est la référence.
C'est un vrai savoir-faire à la française en fait que vous défendez.
Ah oui, complètement. La lutherie reste un métier dans le patrimoine français culturel qui est assez important. Il y a eu beaucoup de grands fabricants depuis des centaines. Enfin, ça se compte par siècle. Donc.
Est-ce que finalement c'est cette alchimie-là qui vous permet d'atteindre l'excellence comme un certain nombre de grands luthiers d'autrefois?
Oui, je pense que c'est en tout cas c'est un des facteurs. Moi, je pense que c'est un des facteurs aussi assez récent et peut-être moderne. Je sais pas trop comment ça se passait. Il y avait toujours des violons qui étaient mis dans les mains de grands artistes, mais dans les anciens ateliers, il y a 200 ou 300 ans, c'était beaucoup de femmes. Donc on axait aussi beaucoup sur la production. Finalement, c'était pas industrialisé de cette façon, mais plus par la main d'œuvre. Donc on sortait beaucoup d'instruments et on en sélectionnait les meilleurs sur une quantité finalement astronomique, des Stradivarius, des instruments comme ça. Sur tout ce qui a été fabriqué, ceux qui en sont sortis, c'est minime par rapport à la production. Sauf que maintenant, on essaye aussi par souci écologie, etc., d'être raisonnable sur la consommation de matière, sur plein de choses comme ça. Donc on s'adapte aussi et aux besoins, on va dire, de la planète et aussi du besoin des gens et de l'attente des musiciens. Donc c'est un mix en fait entre tout ça, une lucidité par rapport à tous ces facteurs.
Vous avez parlé tout à l'heure de la passion de la transmission.
Oui.
Les techniques que vous mettez en œuvre dans la réalisation de vos instruments, d'où vous viennent-elles? Est-ce qu'elles vous ont été transmises aussi par des anciens?
Ça a été transmis, oui, à l'école de Québec, donc avec beaucoup de professeurs qui étaient issus du Quatuor, qui m'ont vraiment fourni la qualité, l'exigence, en tout cas d'entrevoir l'exigence que demandait ce métier, les techniques de base. Et ensuite, je me suis formé, spécialisé chez un luthier nord-américain au Québec aussi, qui s'appelle Benoît Lavoie, qui est maintenant un luthier très reconnu sur le continent américain et aussi en Europe. Pour sa remise en question aussi de la lutherie, de faire des choses modernes, de repenser l'acoustique. Et donc oui, en fait, c'est lui qui m'a un peu aussi donné le goût, comme maintenant j'essaye de donner le goût aussi aux gens à qui je transmets la lutherie, en tout cas.
Ça ne peut ça ne peut marcher que par transmission, comme ça, finalement.
Oui, après, il y a aussi beaucoup d'autodidacte, de la persévérance, mais c'est vrai que la transmission, moi, c'est ça que je vois dans la transmission, c'est éviter de se cantonner à rester tout seul et de perdre, entre guillemets, du temps parfois à... Si on peut donner la possibilité aux gens de notre savoir et qu'eux puissent démarrer de là, le comprendre, l'assimiler et de voir plus loin, c'est comme ça qu'on avance plus vite en tout cas.
Vous allez peut-être pouvoir nous répondre tous les deux, Gwenolé ou vous, Benjamin. Est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires pour devenir luthier? Bien évidemment, aimer la musique, connaître la musique.
C'est ça, il faut...
Jouer d'un instrument.
Jouer d'un instrument, un petit peu, mais c'est pas forcément une obligation non plus. C'est quand même avoir une oreille musicale, aimer la musique, aimer le son, en tout cas, c'est sûr, pour savoir écouter son instrument, et même quand il est dans les mains d'un musicien, savoir l'écouter. Après, si on sait jouer d'un instrument comme Gwenolé, c'est sûr que ça apporte aussi des facilités, mais pour moi, ça n'a pas été un empêchant, en tout cas.
Gwenolé.
Moi, je pense que c'est aussi beaucoup de passion. Faut rentrer vraiment dans ce métier avec le cœur. Moi, c'est vrai que je me suis mis, comme je vous le disais tout à l'heure, au métier manuel assez tard, finalement, et ça m'a pas empêché de, avec persévérance et avec beaucoup d'application et de méticulosité, d'arriver à faire en tout cas, je l'espère, de belles choses.
Jean-Marc, une autre question.
Alors, le bois est un matériau vivant.
C'est ça.
Donc, qui ne se laisse jamais complètement maîtriser.
Non.
Quel bonheur éprouvez-vous, et la question est pour tous les deux, éprouvez-vous à avoir ce matériau comme compagnon de travail, et quelle relation tisse-t-on avec chaque instrument? Et n'est-ce pas trop difficile de le quitter?
Si, toujours, mais comme vous le dites, c'est ça, en fait, le bois, ça reste un compagnon, en fait, ça reste un partenaire finalement de travail. Faut le moi, je pense, en tout cas, dans ma philosophie, il faut le garder comme tel. C'est quelqu'un avec qui on travaille tout au long de la fabrication, donc la matière reste toujours vivante. Et oui, après, c'est toujours un crève-cœur, on va dire, de voir partir un instrument, parce qu'on les apprécie tous, ils ont tous leur personnalité. Tous les instruments ont leur propre personnalité, on les a fabriqués à des moments de vie aussi, qui inspirent des choses plus ou moins différentes. Donc c'est ça aussi qui guide la création. Et non, après, c'est vrai que le but, c'est qu'ils soient joués, donc avoir 20 instruments à l'atelier pour qu'ils soient pendus, c'est pas le but non plus. Donc c'est aussi, voilà, à un moment, il faut qu'ils soient joués, c'est la meilleure vie qu'ils puissent avoir.
Vous avez gagné le concours d'innovation de la région de l'Occitanie en 2018.
C'est
un coup de pouce pour vous?
C'est un coup de pouce.
Une reconnaissance.
C'est une reconnaissance aussi. Et c'était de relever un peu ce défi, on va dire. D'ailleurs, j'ai ramené la guitare et qu'on va remettre d'ailleurs ce mardi 14 mai à l'atelier. Donc, il y aura aussi une journée porte ouverte où on invite tous les gens à venir s'ils le souhaitent passer. Mais en gros, oui, il y avait des contraintes un peu écologiques. En tout cas, utiliser beaucoup d'essence locale.
Ouais.
Les essences en voie de disparition devaient être substituées à des essences. Donc la touche qui était en ébène, on l'a substituée avec une matière qu'on appelle le corène, qui est une matière recyclée, compressée, étudiée en laboratoire, qui s'approche en niveau fréquence et poids de l'ébène. Donc c'est aussi une matière d'avenir pour remplacer ces essences qui viennent de l'autre bout du monde. Et il y avait aussi une contrainte acoustique. Donc on a sculpté les barrages directement dans la table. Je ne sais pas si ça dit beaucoup de choses à tout le monde, mais en gros,
barrages dans la table,
c'est ça, d'habitude, voilà, les barrages, c'est un peu la structure, la charpente, on va dire, qui permet la conduction du son, donc le juste équilibre entre maintenir la pression des cordes et laisser quand même la table vibrer. Donc ça a été complètement sculpté directement dans la table. Et en plus de ça, pour le petit clin d'œil aussi à la ville de Fronton, avec laquelle on entretient de très bonnes relations et qui nous soutiennent énormément aussi dans le projet, on a fait une finition donc au moût de raisin et brou de noix. Donc on a une guitare un peu brune, violacée, qui est magnifique. Enfin, tout le monde qui la voit est...
Donc, un bel hommage à la négrette, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est...
Jean-Marc, il y a notre question.
Justement, nous avons reçu à ce micro, il n'y a pas très longtemps, Guy Salmona, qui est un vigneron frontonnais. Quel parallèle pourriez-vous faire entre votre travail d'artisan luthier et celui du vigneron? Avez-vous des contacts déjà avec ces artisans? Mais apparemment oui, puisque vous utilisez le moût. Est-ce que on pourrait dire que le design d'une guitare se mûrit un peu comme un bon millésime, hein? Et est-ce qu'une bonne guitare se déguste dans la convivialité comme un bon vin?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est vrai que ça veut bien résumer, c'est un instrument, quand il est joué, il se partage comme une bonne bouteille de vin, c'est un instrument aussi qui prend de l'âge, qui mûrit, donc qui prend en qualité sonore,
qui vieillit
et qui prend, voilà, qui comme un bon vin se garder, et donc oui, ça, le parallèle est assez vite fait, c'est vrai que nous on travaille aussi avec beaucoup de vignerons qui... Voilà, ça reste aussi un métier, je pense, en contact avec de la matière vivante, qui est de la vigne. Donc, on est, enfin, à devoir discuter, c'est des gens qui sont amoureux aussi de leur terre, de leur vigne, qui sont au contact, qui les écoutent. Donc, c'est pareil, ils vivent aussi au quotidien, en fait, avec un compagnon qui est ce fruit, et ils l'entretiennent, ils le perfectionnent. Donc, le parallèle, je pense qu'il peut se faire.
Artiste, artisan, comme vous.
Oui, oui. Moi, je pense que dans tout artisan, il y a forcément de l'artistique. Mmh. Ça dépend comment on l'aborde, mais.
Est-ce que vous allez, ou vous le faites déjà, montrer ce que vous faites à l'international?
On a commencé. L'année dernière, on est allé sur des salons donc en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Mm-hmm. Ça a été des grosses aventures aussi. C'était très intéressant. Donc on a eu des retours où on commence, oui, à s'ouvrir un peu sur l'Europe. Okay. Donc des gens qui commencent à nous acheter des instruments, même à distance, à nous faire confiance. En tout cas, on a eu ce gage de confiance aussi à l'extérieur du territoire, qu'on aimerait bien aussi développer, oui c'est sûr, pour apporter le rayonnement un peu de la France, de Fronton aussi à l'extérieur du territoire.
Tout à fait. Du Made in France et du Made in Occitanie.
C'est ça, Made in Occitanie. Oui.
On peut aller vous voir. Donc vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait faire des stages chez vous. Vous organisez des stages pendant l'été peut-être?
Il y a des sessions de stages d'été. Pour cet été c'est complet, mais on en met régulièrement. Sur notre site on peut se tenir au courant. Ensuite on a eu un accord avec l'Office du Tourisme et la Maison des Vins, plus particulièrement de Fronton, qui va organiser des circuits touristiques. Donc visite de chais, dégustation de vin et visite d'ateliers, artisans, artisanat, artistes. Donc l'atelier Éco d'Artiste s'est porté volontaire aussi. On apparaît comme on a toujours une bonne relation avec cette ville. On se donne aussi pour valoriser et le patrimoine et aussi notre savoir-faire. Donc on ouvre l'atelier sur certaines dates qui seront communiquées par la Maison des Vins.
Jean-Marc, une dernière question.
Vous êtes trois artisans associés sur cet atelier. Est-ce possible d'être trois au démarrage d'une activité comme celle-là, est-ce qu'on arrive à vivre finalement ?
Le début est toujours compliqué, c'est sûr. Mais après, dans le temps, c'est mieux de bien se répartir les tâches. Après, c'est un apprentissage pour nous tous, en tant qu'entrepreneurs. C'était un peu notre premier entrepreneuriat à tous. Donc, le temps de se placer, le temps de savoir quel était notre réel poste. Au début, on tire un peu dans tous les sens, on fabrique des structures, on se met l'atelier, donc on switch, on fait un peu de tout. Puis au fur et à mesure du temps, on trouve notre poste de prédilection pour, comme je disais tout à l'heure, même dans cette association, le but c'est que chacun y trouve sa place et qu'il vienne ici avec le cœur pour travailler à l'atelier. Et maintenant, on s'est ouvert aussi à faire du partenariat donc avec des photographes, avec aussi un communicant. Et voilà, on répartit, on est tous limités, on ne peut pas tout faire et tout bien faire. Donc on se cantonne à ce que nous, on sait faire de mieux. Et voilà, on partage aussi l'expérience avec d'autres personnes maintenant autour.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci à vous. Gwenole, merci Benjamin. On peut vous trouver facilement sur internet, bien sûr.
Oui, sur ecodartiste.com. Après, on sera aussi présent sur un événement à Fronton le 7 juillet. On participe à un festival, on aide à l'organisation, ouais. Et voilà, un festival autour des arts et des sens. Donc il y aura Angelo Debar qui viendra.
Et la guitare.
Et la guitare, il y aura des guitares en présentation et voilà, on pourra se retrouver aussi à ce festival.
Et se retrouver autour de la guitare.
C'est ça, autour.
Merci à vous, gardez ce bel enthousiasme et cette passion.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Marc et n'hésitez pas, écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.